Ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça va? Dans le Seigneur? Voilà. Pour le début de cette année, mon fils Clément m'a dit qu'il veut lire la Bible en un an. Et je me suis dit, c'est une bonne idée. Du coup, je me suis joint à son projet. Donc, il m'a passé le plan, le guide de la lecture, donc j'ai pu commencer. Et donc, en moins d'un mois, j'ai pu lire Évangile Matthieu et Marc assez rapidement. Et en lisant Matthieu 15, versets de 1 à 20, et Marc 7, 1 à 23, j'ai lu que Jésus enseignait sur la pureté intérieure. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai pensé à la dernière prédication avec vous il y a un mois. Je peux parler de la sainteté. Je me suis dit, c'est deux choses qui vont ensemble. Et vraiment, j'ai demandé à Francis pour quelle date de vouloir prêcher. Il m'a proposé ce dimanche, sur 7 jours. D'habitude, je mets un mois pour préparer et j'ai du mal à trouver le thème. Mais là, j'ai déjà le thème. Donc, sans réfléchir, je dis à Francis, je suis dispo. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai promis à l'AI que je gardais les enfants. Alors, j'ai prié au Seigneur, je dis, Seigneur, si tu veux vraiment que je puisse prêcher, tu me trouves un remplaçant. Voilà, et puis après, j'ai appelé, je me suis dit, il y a peut-être Hélène, il y a peut-être Laurent. Donc j'ai appelé Hélène d'abord, l'épouse du pasteur. Hélène a accepté, donc je merci à Hélène. Ensuite, j'avais quelques questions sur ce que je vais prêcher. J'ai écrit au frère Guillaume qui est à Texas. C'est super ce frère. J'ai écrit ma question le soir à 23h. Le lendemain matin, je reçois sa réponse. C'est super, donc, oh Seigneur. Mais dans tout cela, j'ai toujours rendu grâce à Dieu parce que je suis venue au Seigneur à un âge de 45 ans et au début, j'ai jamais rêvé qu'un jour je vais être ici prêcher devant les autres avec un français qui est vraiment pas très bon. Voilà, merci Seigneur pour cela. Et oui. Voilà, donc j'ai vraiment partagé avec vous ce que enseignait Jésus à ses disciples. Je ne sais pas qu'est-ce que David a pris dans la version souillée. Bon, moi, ma version à moi, c'est Louis 21, donc voilà. Alors, vous savez que quand Jésus a prêché, ses adversaires, les pharisiens, les sadduciens, tous les autres qui se croient intellos religieux, cherchent toujours un moyen de lui rendre un piège. Et là, hop, un jour, ils ont vu ses disciples en train de manger, sans laver les mains. Ils se disent, chouette, c'est vraiment, c'est bien, on va reprocher à son maître, à leur maître. Voilà. Donc, ils sont allés dire à Jésus, ouais, t'as vu, tes disciples, là, mangent sans laver les mains, ils ont les mains impures. Ils se sont dit, voilà, Jésus va avoir une gaffe, et puis voilà. Et non, le Seigneur, comment il a répondu? Il est vraiment super, notre Seigneur. À la place de dire, oui, il vous a raison, que mes disciples respectaient ses disciples, il leur a traité d'hypocrite tout de suite. Hein, vous avez dit tout à l'heure, mais le verset là, c'est qu'il a dit, vous croyez que vous avez vraiment les mains pures, mais en fait, il a sorti le verset d'Ésaïe 10, verset 9, il dit qu'à l'époque déjà, Dieu le savait, le peuple Israël l'honore de leurs lèvres, mais le cœur n'y est pas. Donc, Jésus l'a répondu par ce verset. Ce peuple m'honore par les lèvres, on va dire par le bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Donc, ensuite, Jésus a saisi cette occasion de parler l'enseignement de la pureté intérieure pour ses disciples. Il leur a dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, la nourriture, qui rend l'homme impur, Donc, vous le savez très bien, la nourriture entre dans la bouche, entre dans les ventres et évacuée dans les WC, dans les toilettes. Et Jésus déclare que tous les aliments sont purs. Ensuite, il leur a dit, vraiment, c'est un enseignement, je pense qu'ils n'ont jamais su, ce qui rend un homme impur, c'est qu'il sort de sa bouche. C'est de l'intérieur, donc c'est notre cœur. Donc Jésus l'a dit, dans le verset 20, je vais lire la version que j'ai, Jésus dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme, des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Voilà, le Seigneur a éliminé toutes les mauvaises pensées qui sortent de notre cœur. J'ai choisi l'évangile de Marc parce que Marc énumérait beaucoup plus en détail les mauvaises pensées que dans Matthieu 15. Donc ma première question, le premier 1, c'est qu'est-ce qui rend l'homme impur? Donc la réponse le Seigneur nous a donnée, c'est de l'intérieur, c'est du cœur, que sortent des choses mauvaises, des pensées mauvaises. Le cœur est le centre de la personnalité, de la volonté et des pensées et des émotions. Le cœur dicte en grande partie notre manière de vivre, d'agir et de parler. Et c'est toujours là où se décident des choses importantes. Alors, quand est-ce que le cœur a perdu sa pureté? Au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu avait donné un cœur pur à Adam et Ève. Et qu'est-ce que c'est un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur qui est sain. Vous pouvez imaginer un vêtement tout blanc. Il n'y a aucune tache dessus. C'est vraiment blanc. Ça, c'est un cœur pur, sans souillure, sans hypocrisie, qui ne pense pas à soi-même, donc qui n'est pas égoïste. C'est un cœur rempli d'amour. Il y a zéro mauvaise pensée dans ce cœur pur. Et pourquoi Dieu a créé un cœur pur? On a chanté tout à l'heure, c'est pour que ce cœur soit consacré à Dieu, tourné vers Dieu. Connaître, chercher à dépendre de Dieu, faire confiance à Dieu, aimer Dieu, être reconnaissant à Dieu, et vraiment, comme Jésus nous a donné le premier commandement, l'adorer de tout notre cœur. C'est ça le but que Dieu nous a créé pour un cœur pur, pour que nous puissions vraiment vivre avec lui tous les jours, puisque en commençant, nous avons vu Dieu vient les visiter dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Et à l'époque, ils étaient nus, mais ils se promenaient tous les deux, même accueillant Dieu avec leur nudité. Ils se sentent à l'aise. Mais avec la tentation du Satan qui arrive, donc c'est une tentation externe, Ève a chuté et Adam aussi a chuté. C'est avec la chute, après la chute, que le cœur a perdu sa pureté. La preuve, nous avons vu, quand ils ont mangé le fruit, quand ils ont désobéi à Dieu, mangé le fruit qui est défendu, ils ont vu, ah, tu es nu, je suis nu, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont la honte, le sentiment de honte. Et après, quand Dieu est venu les chercher, est né le sentiment de culpabilité. Tout ça, c'est les sentiments négatifs qui n'existaient pas avant dans le cœur pur que Dieu a créé. Donc avec la désobéissance, le péché est rentré, le péché a corrompu le cœur. Du coup, l'homme n'a plus le cœur pur, donc il peut plus rester toujours avec Dieu. C'est parce que Dieu a voulu. Donc Dieu les chasse de Jardin Éden, et Dieu est fidèle. Il a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc la mort spirituelle, c'est tout de suite, puisqu'ils n'ont plus le cœur pur. Ils ne peuvent pas rester en présence avec le Dieu Saint qui est pur. Ils sont chassés du jardin, ils ont une mort spirituelle. La mort physique suivra quelques dizaines d'années après. Donc, à partir de Adam, après la chute, nous qui sommes descendants de Adam, pour nous chrétiens qui croient à la création, donc le cœur de l'homme a perdu la pureté. Tout cela, c'est à cause de c'est Satan qui est venu pour saboter le plan de Dieu. Il a réussi à diviser, à mettre en doute l'homme envers Dieu, à faire l'homme désobéir à Dieu, et du coup, voilà, l'homme est séparé de Dieu. Alors que Dieu a toujours voulu être notre Dieu, que nous soyons son peuple. Pour cela, la Bible nous l'a dit dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'était le verset avant que Dieu a voulu envoyer les élus sur la terre. Et ensuite, dans le psaume 51, verset 7, le roi David écrit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Donc là, déjà, une fois conçu, on est déjà marqué par le péché. Donc, c'est vraiment, c'est la Bible qui nous dit. Les pharisiens qui sont venus reprocher à Jésus de ses disciples qui ne se sont pas lavé les mains, ils n'ont rien compris, ils sont passés à côté de ce que Dieu a voulu pour eux. Ils ont suivi, Jésus l'a dit, ils ont suivi les règles humaines, la condition, la coutume des hommes. Ils ont suivi scrupuleusement de façon superficielle pour faire bien vu par les autres. Mais leur cœur n'y est pas. Ils ont l'apparence, ressemblance, mais n'ont pas vraiment l'engagement du cœur avec. C'est pour ça que Jésus leur traite toujours de l'hypocrisie. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme nous aujourd'hui, tout à l'heure, si on chantait les louanges à Dieu, par nos lèvres, par nos bouches, mais si notre cœur n'y met pas dedans, Dieu le sait, Dieu sonde le cœur de chacun de nous. Voilà, donc, à cause de la chute, le cœur a perdu sa pureté. Mais Dieu savait que tout cela va arriver. Il est Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu miséricorde. Il a toujours voulu être le Dieu des hommes et les hommes sont son peuple. Alors, comment Dieu agit pour rendre le cœur pur? La réponse est grâce à l'œuvre du Christ à la croix. Dans la Bible, je vois, Dieu l'a fait en deux étapes. La première étape, il a d'abord choisi un homme, Abraham, et à partir d'Abraham, il a formé un peuple, et ce peuple-là, c'est le peuple Israël. Il a donné un code de conduite distinct des autres peuples, avec la morale qui est beaucoup plus élevée, parce qu'à l'époque, les autres peuples adoraient des idoles, beaucoup d'autres dieux. Ils passaient même des enfants au feu pour faire des offrandes à Dieu, aux idoles. C'est des choses que Dieu a vraiment horreur. Donc, Dieu d'abord a choisi le peuple Israël pour lui appartenir. Dieu les a choisis, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, plus beaux ou plus intelligents, simplement par amour. Mais le but de Dieu, c'est qu'ils soient formés vraiment à l'image de Dieu et puissent refléter la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu aux yeux des autres peuples pour attirer les peuples de venir vers Dieu et croire en Dieu. Ils devraient être les missionnaires pour Dieu. Mais l'histoire nous apprend qu'ils ont échoué. À maintes reprises, ils se sont détournés de Dieu. Tout d'abord, ils adoraient Dieu en même temps que les autres idoles. Et petit à petit, ils finissent par rejeter Dieu, même tuer tous les prophètes que Dieu a envoyés, les rappeler en repentance. Donc, ils auraient échoué, la Bible nous dit, parce que la loi, leur cœur a toujours pas la pureté, et la loi de Dieu est inscrite sur les tablettes de pierre, n'est pas écrite dans leur cœur. Donc, ils sont incapables de suivre Dieu de tout leur cœur. Leur cœur ressemble dur comme la pierre. Ils sont vraiment rebelles, la nuque raide envers Dieu. C'est pour cela que Dieu a prévu la deuxième étape. Et tout ce plan, Dieu l'a prévu avant de fonder les fondations du monde. Dans Éphésiens 1, 4, l'apôtre Paul écrit en lui, « Bien avant de fonder les fondations du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Donc saints, c'est sans reproche, mais aussi vraiment un cœur pur. Tout se passe au niveau du cœur. Comme le cœur de l'homme est devenu impur, comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus adorer Dieu, on n'est plus centré sur Dieu, on est centré sur nous-mêmes. Quand je parle de cœur impur, je pense à maintenant, ces temps-ci, je remarque qu'il y a de plus en plus de vols dans les maisons. J'ai entendu une fois, là, un jour, les voleurs volaient encore les agriculteurs. Je trouve que c'est franchement ignoble. Comme, j'ai l'impression que les hommes actuels, le fait d'être voleur, c'est une profession. Ils n'ont pas de honte de voler tout ce que les autres ont fait avec la sueur, avec tout ça, quoi. Ça devient, c'est un dû, quoi. C'est, voilà, vous voyez, quand on perd la pureté de notre cœur, nous sommes comme ça. Et je pense à moi, quand j'étais pas chrétien, je trichais, je mentais, je pense pas que j'ai volé, mais puisque je dis, c'est normal, tout le monde le fait, si je le fais pas, je... Voilà. Et pareil, pour plein de choses, quand on a le cœur qui a perdu sa pureté, on est insensible au péché. On trouve que c'est normal. On suit les pensées du monde. Donc, je veux dire, c'est la pensée du Satan. C'est pas grave. Si je ne le fais pas, je suis plus bête que l'autre. Donc, voilà. Ça, c'est pour dire vraiment avec... Donc, si nous restons avec ce cœur, nous serons toujours éloignés de Dieu, toujours subis la colère de Dieu, la condamnation, dont ça sera les temps de feu ou l'enfer. Mais voilà, Dieu, dans son grand amour, il sait que tout se passe dans ce cœur. Donc, Dieu, et pour moi qui est médecin, lui, c'est un super chirurgien. Il va faire une opération dans notre cœur. Il va enlever ce cœur de pierre, comme il a dit dans Ézéchiel, oui, 36. Je vous enlever dans votre corps ce cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de pierre, de chair, pardon. De chair, vous voyez, c'est pas du diamant, hein, c'est du chair. C'est de chair qui est pas des pompes. Voilà, et il va écrire sa loi à l'intérieur de nous, dans Jérémie 31, donc par le Saint-Esprit. Voilà, donc deuxième étape, c'est par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Tout d'abord, Dieu envoie Jean-Baptiste crier dans le désert. Qu'est-ce qu'il crie, Jean-Baptiste? Oui. Plus fort, Laurent. Repentez-vous. Voilà. quand il crie comme ça, repentez-vous, Jean s'adresse au cœur. Il parle au cœur de chacun. Parce que c'est quand tu t'examines, quand moi je m'examine dans mon cœur, si je suis honnête, je dois reconnaître que je suis pécheur, que j'ai pas un vêtement tout blanc, j'ai des taches sur mon vêtement. Et ça, on doit je dois décider que oui ou pas, je suis pécheur déjà. Et une fois que je reconnais que je suis pécheur, est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Est-ce que je vais confesser mon péché? Est-ce que je veux me repentir? Ça, c'est une deuxième étape, oui ou non. Ensuite, être conscient que je ne peux pas me sauver par moi-même, ni par mes œuvres, ni par mon intelligence, ni par quoi que ce soit qui vient de moi. Là, ça me pousse à dire que j'ai vraiment besoin de Dieu. J'ai besoin d'un sauveur. Donc, Jean-Baptiste a appelé les gens à la repentance. Il prépare le cœur des hommes pour recevoir l'appel de Jésus quand il proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là, je vais revenir un peu dans le contexte de l'époque. Jean-Baptiste, il est juif, dont les hommes et les femmes à qui il s'adresse, ce sont les juifs. Donc ces personnes-là, ils connaissent très bien l'Ancien Testament. Donc ils connaissent ce que c'est être pécheur, ce que c'est le péché, parce que Dieu a donné à travers Moïse toutes les lois pour offrir les sacrifices. Justement, à l'époque, Dieu leur a fait comprendre qu'ils sont pécheurs. Dieu ne peut pas demeurer parmi eux avec les pécheurs. Dieu a donné plein de prescription de purification externe pour qu'ils puissent demeurer purs de façon extérieure et demander pardon à Dieu, tout ça. Donc ils savent très bien ces gens-là. Donc quand Jean-Baptiste dit « repentez-vous », ça leur parle beaucoup. Mais à notre époque, si on va dans le métro ou dans la rue, si on crie « repentez-vous », je pense que les gens vont... La réaction des hommes n'est pas pareille que maintenant. Mais peu importe. Si chacun a, Dieu a donné encore vraiment la, malgré le cœur qui a perdu la pureté, il y a quand même une conscience morale dans le cœur. C'est pour cela que chacun sait tuer, c'est mauvais. C'est rare que les gens tuent pour plaisir, pour quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que Jésus a accompli sur la croix. Pour faire une opération décisive, radicale, dans notre cœur. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu, donc il est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple. Il se présente en public après Jean-Baptiste. Il commence son ministère. Il est Dieu, il s'est fait homme. Il a vécu pendant 3 ans avec les 12 disciples qu'il a choisis. Il les a enseignés. Il leur a manifesté sa grâce, sa gloire. Il leur a montré ce que c'est Dieu. Qui est Dieu? Le caractère de Dieu. L'amour, la bonté, la fidélité, la justice, la droiture, la compassion, la miséricorde. Et pour accomplir la mission de son Père, pour faire l'opération dans notre cœur, pour nous redonner un cœur pur, il a accepté de terminer sa vie sur la croix. Nous avons chanté tout à l'heure. C'est pour ça, il est allé à la croix pour moi, pour toi, pour vous tous, pour nous tous. Il s'est sacrifié pour mon péché, pour ton péché, pour le péché de l'humanité tout entière. Quand il est sur la croix, il a pris le péché de tout le monde sur lui. C'est pour ça que, à ce moment-là, il a dû crier, « Père, Père, pourquoi tu m'as éloigné ?» Parce que là, il est sale. Lui qui est sans péché, dont Dieu ne peut pas être avec lui. C'est à ce moment-là, Dieu l'a abandonné pour un laps de temps. Vous voyez, Jésus-Christ, propre, le vêtement sans tache, agneau sans tache, sans défaut. Il est mort pour moi, pour toi. Voilà, quand il est mort, le péché est mort avec lui. Et la mort, donc le péché est mort avec lui, mais Jésus-Christ n'est pas mort toujours. Dieu l'a ressuscité le troisième jour par le Saint-Esprit. Donc, par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu le péché, la mort, et boum, il a vaincu Satan. C'est ce que Dieu l'a dit dans Genèse 3, la descendante de femme va écraser ton talon. Voilà. Donc Dieu a prévu tout ça, il n'est pas pris pour dépourvu. Le plan de salut pour nous, Dieu a prévu bien avant. Parce que Dieu, vraiment, il sait tout. Voilà. Donc vraiment, Jésus est venu pour nous offrir un cœur nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Le sang de Jésus a purifié notre cœur et nous donne un nouveau départ, une nouvelle naissance, un cœur nouveau. Parce que comme Satan a brisé la relation avec Dieu, Satan a rendu notre cœur corrompu, Jésus il est venu restaurer tout cela. Il est revenu pour que nous puissions se réconcilier avec le Père. Alors, comment avoir un cœur pur? Je pense que vous savez tous, vous êtes passés par là. Pour moi, c'est d'abord confesser, me repentir et accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est tout simple. Et là, Jésus-Christ, Dieu me pardonne de mon péché, il me donne un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, pourquoi faire? Pas que je vienne plus propre, non. Ce cœur nouveau, on a chanté tout à l'heure, pour que ce cœur se consacre tout envers Jésus-Christ, envers Dieu, se tourner à Dieu, se détourner de toutes nos impuretés, de toutes nos idoles, et l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées et toute ma force. Et ce cœur-là, vraiment, centre sur Dieu. C'est Dieu qui règne dans notre vie. Dieu a voulu cela depuis qu'il a créé l'homme et la femme. Il veut que nous, on devienne son peuple et lui, notre Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean a écrit dans Apocalypse. Donc Jésus est envoyé par son Père, le sacrifice à la croix, tout cela pour restaurer notre cœur. C'est toujours histoire de cœur. Mais cette fois-ci, nous avons un cœur de chair. Et la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit en nous. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit pour nous dicter, pour nous guider de vivre ce chemin de la sainteté, de la foi. Alors, maintenant, j'ai un cœur. Toi, tu as un cœur. Nous avons un cœur pur. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Quand on achète une voiture neuve, il faut l'entretenir. Si on n'entretient pas, la voiture devient. Voilà, pour moi, c'est pareil. La voiture, tu l'achètes neuve, elle est propre, mais au bout d'un certain temps, il faut laver la carrosserie. Il faut mettre de l'essence, il faut aspirer à l'intérieur. Pour moi, laver la carrosserie, aspirer les saletés, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit nous rend plus vraiment sensibles au péché. Je vous ai dit qu'avant d'être chrétien, je trichais, je mentais. Mais une fois que je suis chrétien, j'ai vraiment décidé d'arrêter de tricher. Parce que je sais que cela ne plaît pas au Seigneur. les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. J'ai même quelqu'un qui me dit, t'es bête. Si tu triches pas, tu t'es fait avoir par le fisc. Mais je dis, je m'en moque. Je préfère être bête aux yeux des hommes, mais clean avec Dieu. C'est pareil, j'essaie dans la, ce que je possible de ne pas mentir. Mais c'est vrai, je n'arrive pas à 100%. Donc, pareil, je vous ai parlé la dernière fois de la sainteté. Je ne sais pas si vous avez fait votre bilan. Moi, j'ai fait mon bilan pendant tout ce mois. J'ai quelques bonus, quelques malus. Alors, je vous parle de mes malus. C'est surtout dans la, quand je conduis. Je ne sais pas si ça vous arrive. Pareil. J'ai passé 3 fois ou 4 fois les feux orange. Et ce matin, Laurent a failli me faire encore fauter. Et je n'ai pas passé. Je me suis arrêtée. L'autre malus, c'était, j'ai tourné à droite, malgré, j'ai vu quand même un signal. Vous avez compris? Parce que je me suis dit, c'est plus vite que d'aller jusqu'au rond-point et revenir, voilà. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, c'est la énième fois que tu le fais. Alors, je dis au Seigneur, je promets la prochaine fois, c'est fini, je ne le fais plus. Voilà. Un autre malus, c'est que, bon, un petit détail, je me suis encore mis à être en colère et c'est pas justifié. Donc là, j'essaie de faire de mon mieux. Alors les bonus, je vais vous le dire. Bonus, vous vous souvenez quand je vous dis, j'ai respecté une petite fille là, un peu honteusement, mais là, j'ai réussi à être calme, peut-être pas aimable, mais vraiment calme envers les enfants. Pas les enfants d'ici, de l'église, mais les enfants de mon cabinet. La semaine dernière, il y avait un petit garçon, il ne laissait pas examiner, il criait tout le temps, mais là, j'étais zen. J'ai dit à la mère, c'est pas grave, on va ici, et voilà, merci Seigneur, donc c'est mon bonus. Voilà, je sais que vous faites pareil tous les mois, vous faites un bilan, bonus, malus, plus vous avez des bonus, le Seigneur est content parce que vous reflétez sa sainteté. D'accord? Voilà, je vais revenir sur Jésus. Alors, on parle maintenant par notre foi en Jésus-Christ, on a un cœur pur. Mais ce cœur pur, il faut l'entretenir. C'est comme une maison, comme on vous dit, la voiture. Ah oui, l'essence, pour moi, c'est la parole de Dieu. Si tu ne mets pas l'essence, ta voiture n'avance pas. Et si on ne mange pas le pain spirituel, notre vie spirituelle ne grandit pas. N'est-ce pas? Ok? Amen? Voilà. En fait, Dieu est bon. Il a tout fait, il a tout pourvu. Il a fait sa part, mais nous, on doit faire notre part. Donc, Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, il nous a purifié notre cœur par son sang. Il nous a donné une nouvelle vie par sa vie. Mais si on reste là, le jour où on voit Jésus-Christ, l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, l'œuvre, ce sera de la paille ou du papier, ce sera brûlé, on sera passé tout juste. Donc, vraiment, on a besoin d'entretenir ce cœur pour qu'il reste toujours en état de pureté. Comment entretenir? Dieu est bon, je vous ai dit. Il s'occupe de l'après-vente. Le SAV est très bon chez Dieu. Il nous donne des outils. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la prière, pour que nous puissions vraiment maintenir la pureté de notre cœur. C'est pour cela, quand j'enseigne à des jeunes ados, je leur donne toujours des versets bibliques à retenir. Et vraiment, je vous exhorte, encourage, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, même 30 ans de plus jeune. Vraiment, quand vous lisez la Bible, retenez les versets. pour moi, c'est vraiment important. Vous avez vu que Jésus a fait fuir Satan avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il n'a pas utilisé sa puissance. Rien que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est une épée à double tranchant. C'est mieux que l'épée de Star Wars. N'est-ce pas? On peut faire il y a des gilets par balles, mais la parole de Dieu, c'est un gilet par tentation, on va dire. Par péché, ça se dit pas. Et la parole, c'est un épée. On peut faire fuir Satan. Et le Saint-Esprit, il nous rend sensible au péché. Et pareil, même, on peut dire, aucun de nous ne pêche. Ça, c'est impossible tant que notre vie est sur la terre, on pêche. Mais l'apôtre Jean nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera de nos péchés. Donc, quand moi, ça m'arrive de pécher encore, comme je dis, des malus, mais tout de suite, quelques minutes après, je pense que Saint-Esprit me dit, t'as fait quelque chose de mal, t'as dit quelque chose pas bien. Bon, d'accord, Saint-Esprit, je vais penautement vers la personne, je m'excuse, j'ai mal dit, j'ai mal... Voilà. Maintenant, quand je fais une faute, quand le Saint-Esprit me rappelle, alors je présente mon excuse le plus tôt possible. Je ne veux pas laisser ça traîner des heures et des jours. Parce que plus on traîne, plus on dit... C'est pas important. Oh, il a rien entendu. Ça ne fait rien. Mais non, ça, je pense que c'est vraiment. Ça, c'est pour qu'on soit vraiment net au niveau de Dieu. Parce que David, quand il a commis le plus grave péché, adultère et meurtre, dans sa prière, il a dit : j'ai péché contre Dieu. Dans tout ce qu'on nous faisons, si on ne respecte pas. Le code de conduite de Dieu, on pêche contre Dieu. Ah oui, donc, pour la conduite, on a besoin de code de la route. Mais la Bible, je ne sais pas ici, la Bible, c'est notre code de conduite quotidienne. J'aime bien le psaume 1. Il paraît que c'est Esdras qui a écrit ça. Il a dit, l'homme qui... médite, qui prend plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il porte son fruit en sa saison, et son foyer ne frétille pas, il réussit tout ce qu'il fait. C'est vraiment ça. Quand je lis la parole de Dieu, pas seulement lire, mais bien comprendre, bien digérer, après méditer et puis avoir la parole dans notre cœur, dans notre tête. Et à chaque fois, si devant certaines situations, il y aura cette parole de Dieu qui va sortir, qui va nous guider dans tous ces éléments. Vous voyez les hommes attachés à Dieu, Daniel, Néhémie, Esdras, Moïse, je suppose, ils sont dans leur cœur. Et dans leur tête, ils sont remplis de la parole de Dieu. C'est pour ça, vraiment, ils sont des meilleurs. Ils sont meilleurs que ceux que dans le royaume perse, Daniel et ses trois amis, ils étaient vraiment les meilleurs. Parce que c'est pas seulement qu'ils étudient bien, mais ils sont remplis de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est, Jésus l'a dit, c'est plus précieux que les perles. C'est franchement, c'est, vous êtes jeunes. Si vous retenez rien qu'un verset par semaine, 52 versets par an, fois 30, vous serez meilleur que moi à mon âge. Vraiment, je vous exhorte de faire cela. Hein. Bon, pour conclure, tout est l'histoire de cœur. À partir des mains impures, Jésus a su ramener les pharisiens au bon endroit. Donc, Jésus a appris que Dieu est plus préoccupé parce que notre cœur pense que parce que nous mangeons. puisque Jésus a déclaré les aliments sont purs. Donc l'histoire des règles des aliments purs et impurs à l'époque de Moïse, celui-là s'est aboli. Donc là, le cœur de l'homme était pur à l'origine, au commencement, mais à cause du péché, le cœur est corrompu. Parfois, la Bible dit il est tortueux, rempli de mal, pensé que vers le mal. Et Dieu a voulu toujours y créer l'homme, mais c'est pour rester avec l'homme, être en relation amour avec homme, mais ça a été séparé à cause de ce péché. Mais grâce à la venue de Jésus-Christ, grâce à son œuvre à la croix, si tu donnes ton cœur à Jésus, c'est-à-dire que oui, tu échanges ton cœur de pierre, tu prends le cœur de chair de Jésus, il purifie ton cœur par son sang, il te donne une nouvelle naissance. Tout ça, c'est par la foi. Bien sûr, il y a la repentance avant. Tout se suit, c'est un cheminement logique. Après tout ça, notre relation est restaurée avec Dieu. La relation qui est brisée est restaurée. Et nous sommes réconciliés avec Dieu, pas seulement réconciliés avec lui, nous sommes appelés enfants de Dieu, peuple de Dieu. Et la Bible nous dit tout ce que Dieu nous réserve, c'est beaucoup mieux que ce que nos yeux et tout ce qu'on peut penser. Donc c'est vraiment super. Dieu a fait vraiment une bonne opération chirurgicale dans notre cœur par l'œuvre à la croix de Jésus-Christ. Dans la Bible, pourquoi on nous a raconté toute l'histoire du peuple d'Israël? Je pense que c'est pour montrer bien que tant que le cœur intérieur de l'homme n'est pas changé, que la loi de cœur n'est pas écrite dans notre cœur, on ne peut pas arriver à ce que Dieu nous demande. Donc, c'est pas par ma force, par mon intelligence, par ma capacité que je peux me sauver et que je peux avoir un cœur pur, que je peux avoir la vie éternelle. Non, c'est vraiment par la grâce de Dieu, par le don de Dieu. J'aime bien Éphésiens 2, 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous êtes sauvés par la grâce, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne dépend pas de vos forces, de vos œuvres, afin que personne ne peut se vanter. C'est vraiment, je trouve que ça résume bien ce que c'est le don de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que si c'est quelque chose que nous faisons, il n'y a plus de grâce, c'est un salaire. Donc vraiment, je retiens ce verset justement pour que quand les autres personnes ne parlent qu'il peut se sauver par soi-même, parce qu'ils font des bonnes actions, surtout la plupart d'entre eux, c'est les catholiques, moi je leur dis ce verset et je leur demande comment ils répondent à ce verset. Quoi. C'est pour ça, c'est bien d'avoir des versets dans la tête. Comme les gens nous posent des questions, on leur répond, pas par notre parole à nous, mais par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va leur parler. Et nous, on a sorti la parole de Dieu, c'est vraiment une arme à double effet. Double danger. Voilà, donc vraiment, je vous exhorte, encourage de entretenir le cœur pur que le Seigneur vous a donné. Ne laissez pas vous lavez votre voiture, j'espère, aspirez votre voiture de temps en temps. Alors, le cœur, il est plus important que la voiture. Il faut vraiment l'aimer, chérir et vraiment garder vraiment pur, aussi pur que possible. Prions ensemble. Abba Père, merci pour ton plan si merveilleux, si gracieux. Oui, tu n'as pas voulu que les hommes sacrifient leurs enfants. Tu n'as pas voulu que Abraham sacrifie Isaac, mais tu n'as pas hésité de sacrifier ton fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Tout cela pour nous, les pauvres pécheurs qui ne méritent même pas ton amour, Père. Vraiment, c'est un amour insondable, un amour infini, Seigneur. Et merci encore pour l'œuvre que ton fils a accomplie à la croix. Père, merci pour cette nouvelle vie en Christ. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Et merci pour la prière que tu nous donnes. Pour, c'est vraiment un moyen de communiquer avec toi. Et Père, garde chacun de nous, sanctifie-nous par ta parole. Et encourage chacun de nous, nous puissions vraiment toujours avoir faim et soif de ta parole. Et de parler avec toi, dépendre de toi, t'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.